À voix nue. Cette semaine, en hommage à Anne Sylvestre récemment disparue, France Culture diffuse en nouvelle écoute les entretiens d'Elena Zera avec la chanteuse en 2002. Ce soir, une enfance heureuse mais marquée par la guerre.
J'ai souvent répondu quand on me demandait quelle avait été mon enfance, j'ai pu répondre que j'ai eu une enfance heureuse. Et pourtant, c'était au milieu de pas mal de tribulations. Mais déjà, ma naissance a été heureuse parce que j'arrivais après deux garçons. Et que donc, j'étais accueillie comme une princesse. Mes parents désiraient vraiment une fille. À l'époque, on ne savait pas avant ce qu'on allait gagner, quel allait être le cadeau. Et puis, bon, c'était moi. Et j'ai été vraiment très, très bien accueillie, aussi bien par ma mère, évidemment, que par mon père. Ça ne s'est pas démenti par la suite. Bon, j'étais une petite fille protégée, finalement. Une petite fille à jardin, une petite fille à balançoire, à petite robe en Vichy, avec la petite culotte pareille en dessous. Il y avait... Voilà, une grande maison avec un jardin, les frères, tout ça était très classique. L'aîné me défendait et l'autre, le deuxième, me martyrisait. L'équilibre était là. Et puis, je rêvais beaucoup. Je me souviens, c'est drôle parce qu'il y a comme ça des souvenirs qui émergent. Je me souviens que j'avais un livre, même avant de savoir lire, j'avais un livre relié en toile bleue pâle, qui était, je crois, des contes, ça devait être les contes de Perrault ou d'Anderson. Et puis, je faisais sécher des fleurs dedans. Et je me balançais avec mon livre, alors que je savais absolument pas lire. Et puis, c'est-à-dire que j'ai réussi à avoir, oui, une petite enfance, normal quoi, avec des jeux, avec une école maternelle, avec des leçons de piano très très tôt. Sauf
votre
que
ma mère est musicienne.
Maman était musicienne, oui, elle jouait du piano, elle avait fait du chant. Sauf que le père n'était pas souvent là, et puis que maman l'attendait des fois. Comme ça, longtemps, et j'ai gagné d'elle, je crois, cette faculté d'attendre et de ne faire que ça. Enfin, l'attente étant une occupation à part entière. Bon, je pense qu'elle était très très angoissée. Il y avait Juliette, voilà, qui était la deuxième mère, et c'était souvent sur ses genoux que j'attendais aussi quand maman était ailleurs. Bon, elle me chantait. Tout va très bien, Madame la Marquise. Enfin bon, tout le répertoire de Réventura. Et puis, plein de choses. Elle avait des dictons sans arrêt qui me reviennent aussi toujours au très bon moment. Et simplement, voilà, il y avait cette espèce d'angoisse qui pesait puisque mon père, donc... faisait de la politique.
Votre sœur a raconté un peu votre histoire familiale.
Oui, Marie.
Dans
oui.
Les Marichets, les lauriers du lac de Constance. Alors, curieusement, c'est votre sœur qui n'a pas vécu cette histoire qu'il a racontée.
Oui, ma sœur, enfin, qui est devenue Marichex en écriture. Bon, c'est une enfant de la guerre. Elle est née, elle, pendant la guerre, avec même toutes les carences. Que les enfants à l'époque avaient, enfin, ils poussaient avec ce que leur mère pouvait leur donner à manger. Ça manquait beaucoup de vitamines, ça manquait beaucoup d'un tas de choses. Mais elle n'a pas, c'est ça, elle était trop petite pour vivre les événements comme nous les avons vécus, mes frères et moi.
L'histoire que donc votre sœur raconte, c'est que votre père est ingénieur, il ne supporte pas le climat des grèves de 36 et il bascule dans le fascisme et devient lieutenant de Doriot.
De Doriot, c'est ça. Je pense que il aurait pu très bien basculer de l'autre côté et il a basculé de ce côté-ci. Mon père n'était pas un assoiffé de pouvoir, je pense. Lui, c'était un idéaliste et c'était un homme qui un homme qui en a suivi un autre. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours considéré que faire de la politique, c'est suivre quelqu'un. c'est épouser les idées et les convictions de quelqu'un, très souvent.
C'est peut-être une chose qu'on dira après, mais moi, ce que j'en ai compris pour vous de cette histoire, c'est que jamais vous n'allez suivre quelqu'un, jamais vous allez l'être embrigadé quelque part. Vous êtes vraiment vacciné, très très fort.
Oui, bien sûr.
Vous n'êtes pas une politique,
non,
par
pas
exemple.
Non, pas du tout. D'ailleurs, je ne... De là, de cette situation-là, et de tous les malheurs que nous avons eus dans la famille à cause de ça, j'en ai gardé non seulement un refus, mais une incompréhension totale. J'étais nulle en histoire. Et je suis nulle en histoire, même en tout ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire que je me fais expliquer les choses. Je comprends, hein, je vis les choses, mais je les ressens plus de façon viscérale et de façon humaine que sur le plan des idées et de l'histoire.
Il venait à la maison, Thoriot, vous avez des souvenirs ?
Oui.
Alors quel genre, pour une petite fille de 6 ou 7 ans.
Oserais-je dire que j'ai sauté sur ses genoux? J'avais, oui, c'est ça, j'étais petite, non, même plus petite que ça. Bah, c'était un monsieur très impressionnant, il mesurait à peu près 2 mètres, il avait des...
J'étais très fort.
Oui. Il avait des immenses pieds, des grandes mains, et bon, mais je veux dire que c'était... Moi, je dessinais des cocardes, hein, et des petits drapeaux PPH.
J'imagine qu'on ne peut pas faire une carrière politique comme lui a pu faire. Il faut quand même rappeler qu'il a été un grand député communiste avant de tourner au fascisme, sans avoir un espèce de capital de sympathie, de chaleur.
Ben il avait beaucoup de charisme, oui, et beaucoup de séduction. Je pense, mon père, il me semble, n'aurait pas suivi n'importe qui. Mais les idées, ça, moi, j'ai compris très, très longtemps. En fait, je pense que j'ai compris lorsque j'ai lu le livre de ma sœur. Parce que j'avais fait un blocage. Après la période de la guerre et la période du débarquement où justement mon père est parti en emmenant mon frère Jean, l'aîné, qui avait 18 ans. Après ça, mon père a fait 10 ans de prison. Jean avait disparu dans un bombardement. Inutile de dire que je l'attends toujours, puisque les gens qui disparaissent, on ne peut pas faire son deuil, on ne peut pas les pleurer, et on les attend. Lorsque mon père était... je manquais l'école une fois par semaine pour aller le voir à Fresnes. C'est des choses qui vous... Je pense que on se cuirassait là contre. Maman disait, mes filles, n'accrochez pas vos doigts après les grillages, vous n'êtes pas des singes. Et puis, on se tenait bien, on se tenait droit, on était...
Tiens-toi droit.
Oui, ben c'est ça. Ouais. Et moi j'ai fait un rejet et un blocage total. Mon frère Paul, qui avait 5 ans de plus que moi, lui aussi, il n'était pas question qu'on nous parle de tout ça. Et lorsque papa est sorti de prison, j'avoue que j'ai pas eu le courage de lui poser des questions. On était tellement contents de le retrouver. Alors, ça n'a pas été long, on n'en a pas profité longtemps. Peut-être que si ça avait duré, s'il avait vécu un peu plus, peut-être on aurait parlé.
Dans la Bible, il y a une phrase que je trouve absolument terrible, mais haïssable, c'est « les parents ont mangé des raisins, les dents des fils en sont agacées ».
Oui, mais c'est vrai ça.
Je trouve que c'est monstrueux.
Oui, c'est peut-être monstrueux, mais c'est comme ça.
Oui, mais cette idée que les enfants doivent payer pour les fautes des parents, c'est inhumain. Chaque être humain se refait. Oui. Chaque être humain peut échapper aux malédictions familiales.
Oui, bien sûr, mais malheureusement, tout le monde ne pense pas ça. Tout le monde ne pense pas ça. Il y a toujours des gens qui vous font payer d'être la fille de votre père. Cette période a été quand même extrêmement douloureuse et injuste pour beaucoup de gens. C'est certain que on a eu le temps et l'occasion de lire et de voir énormément de documents sur la déportation, sur cette période-là, sur les camps, sur les ghettos, etc. Je veux dire, je suis horrifiée Je suis horrifiée depuis toujours. Je suis, mais ça me. Enfin bon, je ne comprends pas, c'est tout. Je n'intègre pas ça. C'est...
Mais dites pas que quelque part vous vous sentez coupable. Parce que vous y êtes pour rien.
Non, je n'y suis pour rien. N'empêche que j'ai eu honte. Et j'ai encore un peu honte. J'ai encore honte. Mais j'ai honte. Je n'osais pas le dire. Pendant très longtemps, je n'osais pas. Et quand ma sœur a décidé d'écrire ce livre, elle m'a demandé un peu ma... Pas mon autorisation, mais elle m'en a averti. Elle s'est servie des cahiers de notre père pour toute la partie historique. Évidemment, j'ai pas essayé de l'empêcher, mais j'étais terrorisée. J'étais très effrayée parce que je n'avais jamais parlé de ça jusque-là.
Vous aviez peur de raviver un ostracisme que vous, qui vous avez beaucoup fait souffrir enfant.
Mais oui, mais je. Enfant, je ne sais pas, non, après, oui, à partir de 10 ans, quoi, à partir de 10 ans, entre 10 et 20 ans. C'était pas facile d'être la fille d'un collabo en prison. Je crois maintenant, quand j'y pense de loin, je crois que même quand j'ai commencé à faire ce métier, il y a sûrement des gens qui m'ont freiné à cause de ça. Parce qu'il y a des choses qui ne se justifiaient pas. Mais bon... Je me demande si peut-être maintenant je peux le comprendre. C'était à vivre, c'était tellement douloureux. C'était les enfants des déportés, eux non plus, c'était pas leur faute. N'empêche qu'ils souffraient comme des chiens. Quoi, je veux dire, c'était terrible.
Ils souffrent encore.
Ils souffrent encore. Donc voilà, tant qu'ils souffriront encore, je ne peux pas être indifférente et je peux pas dire ça me concerne pas. C'est pas mon histoire. Désolée, je suis la fille.
Vous avez écrit une très belle chanson qui s'appelle Judith et Roméo,
oui.
Qui est sur ce thème.
Oui. Mais oui, oui. Et puis j'ai écrit aussi l'autre qui est Le Pont du Nord, qui est sur les frères disparus. Puisque mon frère Jean est resté sous les bombes. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que ça, tout ça qui a été vécu, ça m'a donné... je ne dis pas, je ne regrette rien, mais ça m'a donné sans doute une compréhension, ça m'a donné peut-être plus d'empathie que je n'en aurais eu... Si j'avais eu une vie toute simple et protégée, c'est curieux parce que j'ai reçu il y a quelques jours la thèse de doctorat d'une amie qui est médecin. Son sujet, c'est la résilience. Elle est médecin scolaire et elle s'occupe plutôt d'enfants et d'adolescents. Et elle explique que ça, la résilience, c'est la résistance des métaux au choc, mais c'est aussi la faculté d'absorber les chocs et de rebondir et de résister. Et elle m'avait dit d'ailleurs, tu es un très bel exemple de résilience. Je pense que c'était ça où j'étais détruite complètement, où je devenais folle, ou je sais pas, n'importe quoi. Ou alors je continuais, puis j'écrivais.
Je vois que ton regard m'évite, tu ne me réponds pas, Judith. Quel est cet orage soudain, alors que nous étions si bien? Je sens s'élever la barrière qui si souvent me désespère. Nous avons tant pleuré déjà quand nous ne le méritions pas. Oh, n'attise pas ce chagrin, qu'ai-je fait pour que sous ma main la tienne fuit et me résiste? À quoi nous sert d'être aussi triste? Je voudrais penser à demain. Tristesse sous la peau, le sang de mon peuple s'indigne et je ne peux pas oublier que tu descends en droite ligne de ceux qui l'ont persécuté. Mon amour me semble parjure et je sens bien que la blessure ne guérira pas de si tôt. Pardon si je te semble dure. je ne pourrai pas, Roméo. Cette peine que tu abrites, je la partage tant Judith. J'ai souffert du mauvais côté dans mon enfance dévastée. Mais dois-je me sentir coupable? Et ce qui fut impardonnable et que je ne pardonne pas, pourquoi le rejeter sur moi? Je veux bien prendre les remords, et si nous échangions nos morts, sur moi la honte s'accumule, le sang que je porte me brûle, je ne peux me l'ôter du corps. Que le sang de l'agneau à tout jamais ne rejaillisse sur le loup et sur sa tribu. Avant que ce sang refroidisse, il faudra des siècles de plus. Les miens ne pourraient pas entendre ce que ton discours a de tendre. Ils seraient blessés par les mots bien avant que de les comprendre. Je t'aime pourtant, Roméo.
Le personnage de votre mère est un personnage passionnant. Donc, elle est alsacienne, elle comprend l'allemand.
Oui, elle donc, parle couramment, bien sûr.
Quand votre père l'emmène en Allemagne et l'emmène, oui, veut absolument qu'elle aille au discours de Hitler, elle a l'air beaucoup moins emballée.
Oui, non, je crois qu'elle n'est pas très emballée, oui. Mais c'était difficile pour elle parce que en effet c'était elle avait été c'était une partie de sa culture bien sûr jusqu'à l'âge de 10 ans elle a parlé allemand à l'école et puis ensuite bon il parlait on parlait français à la maison mais on n'avait pas le droit de parler français dans la rue sinon on était emmené au poste de police. De par son grand-père qui était saxon, elle avait aussi une partie de sa famille allemande. Des cousines, des tantes, etc., qui se sont retrouvées en Allemagne de l'Est après. Pour elle, c'était une position étrange, quoi, en porte-à-faux.
Oui, surtout que Hitler voulait réannexer, et l'a fait d'ailleurs, réannexer l'Alsace.
Oui.
On a l'impression qu'elle comprend que c'est pas bien,
oui, mais
et qu'elle est une femme, qu'elle ne peut rien dire.
Le deuxième livre de ma sœur s'appelle « Les silences ou la vie d'une femme », et c'est ça. C'est maman, c'était ça, les silences. Je pense que mon père était aussi très traditionnel hein, dans sa façon de voir la famille.
Le monde d'orientiste, c'est un monde macho s'il en est un.
Bien sûr, mais maman, je pense que quand elle s'est mariée, elle avait même pas la vingtaine, elle était toute jeune. Et puis comme elle était orpheline, Elle a été obligée de couper avec l'Alsace, puisque mon père l'a ramenée à l'intérieur, comme on disait. Et elle s'est retrouvée dans la région lyonnaise, puisque mon père était chez Rundpoulenc. Et je me souviens qu'elle nous racontait que lorsqu'elle a eu son premier enfant, Jean, elle a voulu qu'il soit bilingue, bien sûr. Et elle s'est mise à lui parler allemand. Et puis, les bonnes femmes des ingénieurs autour se sont mises à l'appeler la Boche. Alors, comme elle était très jeune et puis qu'elle était un petit peu timide, elle a arrêté. Ce qui fait que nous n'avons pas été bilingues.
Alors, quand vous avez commencé à comprendre, parce que les enfants comprennent assez vite que la situation politique avait évolué de telle façon que votre père avait mis votre famille en danger et s'était mis lui-même en danger.
Oui, mais maman était de cette sorte de femme qui sauve le père aux yeux des enfants. Elle n'a jamais dit quelque chose contre lui, jamais. Donc, sauf après, quelquefois, mais bon, mais elle ne l'a jamais accablé à nos yeux. Donc, on l'aimait. Hein. Moi, je trouvais ça injuste qu'il ne soit pas là.
Mais je ne savais pas. À partir de quelle époque vous avez compris que les carottes étaient cuites, que les Alliés allaient gagner la guerre et que vous allez connaître des moments difficiles.
Ah ben, ça a été très brusque et très net. C'est la nuit, la fameuse nuit où on nous a réveillés. On habitait dans le 16e. On nous a réveillés, on nous a habillés, on a dit au revoir à papa, on a dit au revoir à Jean, qui sont descendus par l'escalier. Depuis, je n'aime pas regarder quelqu'un dans un escalier s'en aller, parce que, mon Dieu, j'ai regardé partir mon frère Jean tout au long des 6 étages, et puis je ne l'ai jamais revu. Et puis, on a mis ma petite sœur dans sa poussette, on a pris quelques sacs. On m'a rien dit de spécial. J'ai pris quand même ma poupée préférée. Et puis on est parti à pied, on a traversé le bois de Boulogne. On est arrivé chez la sœur de maman qui habitait sur Rennes. Et puis on a habité là. Et je suis jamais retournée. Et ensuite l'appartement a été réquisitionné, pillé. Et j'ai perdu mes livres. Pour moi, mes livres, c'était le trésor. Le trésor ultime. Et j'ai passé des années à chercher chez les bouquinistes si j'allais pas retrouver mes livres.
Et après, vous avez perdu votre frère qui est...
Ah ben oui, bien sûr.
La chose pire.
Oui, mais c'était mon frère qui me donnait des livres. C'était mon frère qui me faisait lire. C'était lui qui m'apprenait à sauter du métro en marche. C'était lui qui m'emmenait au musée Rodin ou aux Invalides. C'était mon grand frère. Le dieu. Puis une fois qu'il a été parti, je me suis retrouvée avec mon autre frère, avec lequel j'ai été longtemps assez injuste, parce que c'est sûr que lui se retrouvait, il avait 15 ans, il perdait son inséparable et son père en même temps. Enfin bon, il se retrouvait l'homme de la famille, pauvre Paul. Et puis il s'est mis à me persécuter parce que c'était normal, quoi. Sur qui est-ce qu'il aurait retourné ses humeurs?
C'est un peu le Zazou de la famille. Il aime le jazz, il aime...
Oui. Oui, il jouait de la clarinette. Mais bon, il m'a fait une adolescence d'enfer. Mmh. Et alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'écrivais. Bon, j'étais bonne en français, j'étais bonne en latin.
Qu'est-ce que vous écriviez?
Des poèmes absolument nuls.
mais des choses sentimentales, des choses. Élégiaques.
Mais ça ressemblait déjà. C'était pas des grands machins. Ça aurait pu ressembler à des chansons, en fait, je crois. Mais j'ai fait mes armes comme ça en écrivant. Et puis j'adorais les poètes, j'adorais Joachim du Bellay, j'adorais Apollinaire. C'était Marie-Noël. J'ai beaucoup, beaucoup...
On a un peu oublié Marie-Noël,
c'est vrai. Oh, quelle merveille.
Mais
quelle
merveille. Je cousais pendant ce temps-là, je cousais.
Mon cœur, qu'est-ce que tu faisais? Ah oui, qu'est-ce que tu disais? Ah, c'est superbe, enfin bon, c'est drôle de mettre... Mes poètes préférés, c'est Apollinaire et Marie-Noël. Bon, ça va pas ensemble, mais... Et puis Racine, oh mon Dieu. Et donc... Je suppose, j'ai créé des petites choses comme ça pour moi, mais j'ai commencé... J'ai jamais été vraiment précoce. J'ai commencé vers les 17-18 ans. 18 ans, je pense qu'à 18 ans, on m'a prêté une guitare.
Bon. Il y a un deuxième deuil qui arrive, qui est que vous perdez votre deuxième frère.
Oui, ben mon frère Paul, nous a quitté brusquement. Il avait 30 ans. Bon, j'avais commencé à chanter depuis peu de temps. Et bon...
Vous pensez qu'il est un peu victime de tout ce climat de non-dit, de culpabilité pour...
Mais il était hyper tendu, il était malade, il avait une grave hypertension depuis l'enfance, et à l'époque ça ne se soignait pas, il n'y a pas des soins préventifs comme maintenant, et il... Bon, il vivait avec ça difficilement, et je me rends compte maintenant qu'il avait sûrement des migraines terribles et que ça devait beaucoup influer sur son caractère. Bon, quand j'étais adolescente, quand même, il m'emmenait. Il jouait de la clarinette, puis il m'emmenait écouter Albert Nicolas à la Huchette, enfin, ou écouter du jazz. Ça nous liait, ça, le jazz. Puis il était
c'était un électronicien. C'était un germano-pratin. Il fréquentait les caves de Saint-Germain.
Oui, mais quand même pas beaucoup, parce que nous étions des banlieusards. Puis on n'était pas, on n'avait pas beaucoup de sous non plus. Puis bon, il est devenu ingénieur électronicien, mais pas par diplôme, mais comme ça, par la bande. Il était très fort. C'est le premier téléviseur que j'ai vu, c'est lui qui l'avait construit, tout ça. J'ai vu la télé quand c'était tout petit et tout vert. C'est de petits carrés verts. Et bon, je pense que on s'est manqué parce que il s'est marié et puis on se voyait pas très souvent. Ensuite, moi, j'ai commencé aussi, j'ai quitté la maison et puis voilà, on s'est manqué. On allait commencer sans doute à se trouver.
Nos frères disparus sont comme nos amours. Tant que l'on n'a pas vu leur nom sur une pierre, on ne prend pas le deuil, on survit, on espère. Et malgré l'évidence, on les attend toujours. On a beau le savoir que tout est terminé, qu'on ne remontera jamais le cours du fleuve. On soutiendra pourtant, malgré toutes les preuves, que sur le pont du Nord un bal y est donné. Que sur le pont du Nord un bal y est donné. On met sa robe blanche et sa ceinture dorée. On ouvre les rideaux de toutes les fenêtres. On les a vus pourtant une nuit disparaître, en nous faisant des signes au bas de l'escalier. Et nos belles amours toujours inespérées, on croit qu'elles prendront une place si tendre. On se laisse leurrer, mais comment s'en défendre? Elles arrivent toujours dans un bateau doré. Elles arrivent toujours dans un bateau doré. Quand sur le pont du Nord on a posé le pied, dès la première danse on a le cœur qui flanche. Les souvenirs sont là, qui roulent en avalanche. À peine qu'on nous lâche, on se croit oublié. Et nos belles amours qu'on a tant désirées, qu'on a tant confondues avec nos propres ombres, on les cherche en pleurant au milieu des décombres. À la troisième danse, le pont s'est effondré. À la troisième danse, le pont s'est effondré.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre en 2002 entre Hélène Azéra et Anne Sylvestre, récemment disparue. À Voigny, réalisation Marie-France Thivault, Vincent Deck, prise de son Alexandre Dang, attaché de production Daphné Abgraal, coordination Sandrine Trainer. À Voix Nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.